Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie et de la finance. On commence par la France avec un déficit public qui vient de passer un nouveau record. Il a atteint 291,5 milliards d'euros en 2023, soit 4,9% du PIB, ce qui est tout à fait conséquent et qui dépasse largement les prévisions gouvernementales initiales. Cette hausse est due à l'augmentation des dépenses publiques, notamment en raison des mesures de soutien à l'économie durant la crise sanitaire et puis également la problématique de la réforme de l'assurance chômage. Alors le gouvernement veut la réformer, mais cela provoque de nombreuses critiques de la part des partenaires sociaux. En tout cas, le CAC 40 a clôturé à la baisse en fin de semaine de 1,22%, ce qui témoigne d'une économie française qui est en petite forme. En tout cas, les marchés boursiers, eux, se portent plutôt bien, notamment aux États-Unis. On a un Dow Jones, c'est vrai qu'il a perdu 1,35%, et le Nasdaq aussi, qui a quelque peu reculé, mais on a toujours des politiques d'investissement qui sont tout à fait considérables, indépendamment des oscillations des prix du baril de pétrole, le Brent a bondi de 4% encore, mais malgré tout, il y a cette volonté d'investir, de surinvestir, même peut-être dans le secteur de l'intelligence artificielle, qui est vraiment le point de polarité pour tous les gros investisseurs sur la planète Terre. On va en parler avec notre invité, Michel Rumy, qui a travaillé à la Banque de France, qui est un homme qui connaît parfaitement bien l'économie mondiale, aussi notre région du Grand Maghreb, ce qui est tout à fait important et intéressant dans l'analyse qui va nous proposer. Michel Rumy, vraiment enchanté de vous retrouver dans Economia. C'est vrai, quand on voit les sommes absolument colossales, c'est-à-dire qu'on est bien sur des dizaines de milliards d'euros qui sont annoncés d'investissement sur l'intelligence artificielle. Ça pourrait partir dans les hôpitaux, dans les écoles, etc. Non, c'est l'intelligence artificielle qui aujourd'hui polarise cette politique d'investissement qui est tout à fait inédite et tout à fait considérable.
Mais en fait, cet afflux d'investissement dans l'IA est vraisemblablement et même sûrement alimenté par la conviction que cette technologie est révolutionnaire, qu'elle offre de multiples applications et qu'elle est désormais accessible grâce aux progrès technologiques. En fait, cette IA est vraiment considérée comme une technologie très prometteuse et qu'elle est capable de révolutionner de nombreux secteurs et donc d'apporter de nouvelles valeurs ajoutées. Et ce qui renforce un peu cette croyance, c'est que des avancées réalisées ces dernières années, notamment dans le domaine de l'apprentissage automatique et notamment le deep learning, ont considérablement amélioré les capacités de l'IA. Et donc, jusqu'à tel point que certains considèrent que l'IA offre des potentialités dans nos nombreux secteurs, notamment la santé, les véhicules autonomes, la finance. Et ce qui est encore plus affolant dans une certaine mesure, c'est que l'IA peut être intégrée avec d'autres technologies, telles que l'Internet des objets, la blockchain ou la réalité virtuelle et augmentée, ce qui va encore, on va dire, ces deux technologies combinées vont donner encore plus, on va dire, de potentialité et donc va stimuler les investissements. Et donc, on peut dire que cette ruée vers l'IA, c'est alimenté par la demande croissante du marché parce que les entreprises y voient
oui, bien sûr,
d'intérêt.
Excusez-moi,
opportunités commerciales et donc par de profits substantiels.
Mais Michel Rumy, juste pour le plaisir de vous citer vous-même, ce mot que vous avez prononcé dans la réponse que vous venez de nous faire, vous dites affolant. En quoi, selon vous, qui êtes un économiste connu, reconnu, vous avez une parfaite connaissance de ce qu'est le mot, enfin vous savez exactement ce que signifie le mot investissement au sens premier du terme, pourquoi dites-vous que c'est affolant ?
Bien parce que, alors c'est affolant parce que ça attire l'ensemble des investissements. De manière générale, on aurait pu faire des investissements dans les infrastructures, dans des améliorations de processus. Et en fait, là, aujourd'hui, l'idée est que toutes les entreprises envisagent vraiment de l'IA parce qu'elles y voient vraiment leur avenir et leur pérennité et donc de nouvelles opportunités, etc. Donc c'est en ce sens où pratiquement l'intelligence artificielle et donc ce secteur-là attire l'ensemble des investissements. Et on voit la cotation des entreprises comme Nvidia, ou Meta, qui sont très développés au niveau de l'intelligence artificielle, qui voient leur progression de cours boursiers pratiquement. Je crois que c'est Nvidia qui a augmenté qui a pratiquement doublé en quelques mois sa capitalisation boursière. Donc c'est ce qui fait que, en fait, on a encore sa folance, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. C'est vrai qu'on a des attentes énormes vis-à-vis de cette intelligence artificielle, mais on ne sait plus non plus si c'est pas non plus une folie comme les tulipes il y a quelques siècles, qui avait et que ça risque peut-être d'exploser en vol. Pour l'instant, on n'est pas là, mais c'est le fait de cette polarité. Tous les investissements vont dans les secteurs au détriment d'autres secteurs. Et c'est là qui fait qu'on peut s'interroger sur cette folie, de cette ruée vers ce secteur.
C'est-à-dire que vous intégrez dans votre analyse le fait que ce serait un effet de mode. Est-ce qu'on peut ou est-ce que ce mot n'est pas trop léger? Est-ce qu'on peut parler d'un effet de mode? C'est-à-dire l'idée qu'il faut y être absolument, quitte à ce qu'on y laisse quelques plumes, parce que c'est un secteur promis à un développement tout à fait considérable. Au moins, sur ce point-là, tout le monde est d'accord. On sait que ça va bouger très fort dans ce secteur-là. Mais est-ce que le trop n'est pas l'ennemi du bien, encore une fois?
Alors, est-ce que c'est un effet de mode? Je ne pense pas, dans la mesure où c'est une évolution technologique importante avec des implications qui risquent de modifier profondément l'organisation de la société en général.
Voilà, donc c'est normal d'y aller.
Et, c'est normal d'y aller. Ça risque de jouer un avenir à technologique sociétal, en ce sens. Mais en même temps, ce qui se passe, c'est que contrairement à un effet de mode, on parle aujourd'hui de l'IA, mais il faut bien ne pas oublier que l'IA existe depuis quelques décennies. Les premières recherches ont commencé dans les années 50. Et en quoi n'est-ce pas un effet de mode? Parce qu'on s'aperçoit que les investissements, que ce soit dans la recherche, dans le développement ou le déploiement de l'IA, émanent toutes, soit des entreprises, soit des gouvernements. Donc, ça témoigne, dans une certaine mesure, de l'importance de long terme et de son impact potentiel pour l'organisation de cette société et de l'impact sur l'avenir économique des pays. Et ça qui est très important de comprendre, c'est on aurait pu croire que c'était la folie de certains investisseurs qui sont très capital risqueurs, mais vu que les gouvernements s'y intéressent, montrent qu'en fait, c'est pas si risqué, c'est pas risqué, mais si folie,
bien sûr.
On dirait fou que cela.
Alors quand on observe le mouvement capitalistique, les mouvements des investissements, on note que cela, va dire, tourne autour des pays riches, des pays développés. Or, l'IA, on se doute bien que sa vocation, elle est totalement mondiale. Hein. Il n'est pas question du tout, d'ailleurs, pour que l'IA ait profondément sa raison d'être, celle-ci doit englober tous les pays de la planète Terre. Est-ce à dire que des pays pauvres, notamment, sont à la marge de cette avancée technologique majeure?
Oui, tout à fait. À mon sens, il existe un risque réel de voir un décrochage qui risque de s'accroître entre les pays les riches et les pays les plus pauvres, du fait qu'en fait, que les pays riches concentrent le capital technique, notamment pour ce qui concerne l'IA. En fait, et ce risque est alimenté par trois aspects, à mon sens. Premièrement, c'est le coût élevé de l'IA, ce qui va limiter l'accès aux ressources et à l'expertise. C'est-à-dire qu'en fait, le développement et l'utilisation de l'IA nécessite des infrastructures coûteuses en termes de puissance de calcul, de données et de compétences spécialisées. Or, de manière générale, les pays riches ont un accès plus facile à ces ressources financières et technologiques qui va leur permettre de se développer encore plus. Et donc, d'un certain côté, première des choses, c'est les pays pauvres risquent d'être délaissés pour compte dans ce futur marché, faute de moyens. La deuxième chose également, ce qui peut poser problème, c'est qu'il y a des problèmes d'infrastructure et de connectivité. Dans les pays pauvres, la connectivité et les infrastructures ne sont pas, elles sont de moins bonne qualité de celles des pays développés. Et donc, du coup, ça va limiter cette capacité des pays pauvres à bénéficier pleinement des avantages de l'IA. Et puis, dernière chose, et ça, c'est pour, à mon sens, relativement important, c'est la question de l'éducation et de la formation spécialisée. En fait, les compétences aujourd'hui en matière d'IA sont en forte demande, mais ces compétences sont très rares dans les pays pauvres en raison d'un accès limité à l'éducation de qualité et une formation. Donc souvent, les pays pauvres ont un déficit, on va dire, en matière de d'IA, notamment dans l'ingénierie informatique, les mathématiques et les statistiques. Et donc, ce qui risque de conduire, parce que les pays, ce déficit de main-d'œuvre va conduire des pays pauvres encore à la traîne des pays pauvres.
Bien sûr, mais c'est vrai. Mais Michel Rumi, souvenons-nous des années 2000, quand le téléphone portable, il s'est avéré que celui-ci allait vraiment inonder la planète Terre. Souvenez-vous qu'à l'époque, il y avait des économistes qui se demandaient dans quelle mesure le fait de passer au sans fil ne serait pas un risque pour les pays les plus pauvres parce que la couverture satellitaire n'était pas suffisamment efficiente pour permettre aux téléphones portables de se développer. Or, il s'avère près de 25 ans plus tard que le téléphone portable, notamment je parle des pays africains mais aussi en Asie, des pays qui sont les plus pauvres en Asie, tout le monde est en téléphone portable. Et finalement, on a réussi à passer outre le fait que les réseaux filaires et les réseaux satellitaires n'étaient pas forcément à la hauteur, mais que malgré tout, ça pouvait fonctionner. Or, c'est vrai, ce point me semble intéressant dans ce que vous dites, c'est que l'IA sollicite des connaissances technologiques, des niveaux généraux des métiers qui sont très difficiles. Et c'est vrai que, autant pour le téléphone portable, on a réussi à passer entre les gouttes, l'IA, ça risque hélas d'être plus difficile.
Tout à fait, l'analyse est excellente, dans la mesure où, on va dire, le téléphone est entre guillemets un objet de consommation, alors que l'IA, ça nécessite, je dirais, si on pourrait très, très bien être consommateur d'IA, mais l'idée est que si les pays africains ou même d'autres ont besoin d'être présents, c'est en formant l'éducation, c'est l'avenir de demain. C'est ça qui est très important, et donc on doit orienter, il doit avoir des politiques publiques pour, en faveur de cette, je dirais, cette amélioration. C'est-à-dire que les pays doivent développer des investissements dans l'éducation et la formation, et doivent renforcer aussi les infrastructures numériques, et doivent aussi développer la recherche et développement technologique. Et c'est ce qui est très important aussi, c'est qu'elle doit développer en fait une culture de l'innovation. Et c'est, à mon sens, c'est que si on ne part pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est encore au départ, on va dire de façon simple, au départ des choix, si on ne fait pas les bons choix et de trouver les axes stratégiques, on risque, les pays africains et notamment les pays les plus pauvres dans le monde, dans l'Asie également aussi, eh bien d'être toujours à la traîne et donc d'être dépendant des autres. Or, c'est une fantastique possibilité de pouvoir inciter les jeunes à se former pour être compétents et développer leur propre IA au sein de l'Afrique et dans les entreprises, etc. Mais c'est un moyen.
Mais c'est vrai aussi, vous avez cité à de nombreuses reprises le mot entreprise. Alors là, on touche à quelque chose qui est culturel, c'est-à-dire que le monde de l'entreprise d'un pays à l'autre n'est pas le même, parce que les traditions ne sont pas les mêmes. L'intelligence artificielle, on en a cette perception, vous allez nous dire si on a tort ou si on a raison, ou peut-être tort ou peut-être raison, on va être nuancé, prenons le temps de la nuance, mais face à des entités qui sont le reflet d'identité culturelle, de tradition, de façon d'être dans le commerce, dans le monde entrepreneurial. L'IA, c'est quand même un peu quelque chose d'assez uniformisé, d'assez monolithique. Comment ça peut matcher, si vous me permettez cette expression, entre un modèle entrepreneurial qui est, par exemple, celui qui est émis par l'intelligence artificielle, et puis nos pays, nos économies porteuses de tradition et de culture. Comment ça peut fonctionner ensemble, tout ça ?
C'est là toute la difficulté. C'est que ce qu'il faut bien voir, dans une certaine mesure, c'est que aujourd'hui, dans les pays, il y a une forte automatisation du processus de production. Or, ce qu'il faut bien voir, c'est que aujourd'hui, aussi dans les pays développés, le coût du travail est plus élevé que dans les pays les plus pauvres. Et ce qui va se passer, c'est que les entreprises, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont faire un calcul économique. Cet travailleur me coûte trop cher, je vais essayer de le remplacer par de l'IA. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que si la productivité des robots qui risque de se développer de plus en plus, bien, le pays riche va tirer de plus en plus d'avantages. Mais en même temps, ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, dans les pays, notamment africains, où la population active est de plus en plus nombreuse et le coût de coût de main-d'œuvre est moins cher dans la mesure où on propose des coûts moins chers parce qu'on est plus nombreux, eh bien, que va faire l'IA ? Risque de remplacer certains métiers, voire faire disparaître certains métiers les moins créateurs de valeur ajoutée. Et donc, ce qui va de plein fouet les pays africains qui, du coup, vont se retrouver à être moins à devoir combattre, entre guillemets, un prix d'une machine qui rend moins cher par rapport au coût qu'on leur propose. Et ce qui va se passer, c'est que, au départ, ce bas coût de la main-d'œuvre qui fournissait traditionnellement un avantage concurrentiel aux pays africains, risque d'un seul coup d'arriver à réduire le revenu de la population active parce qu'elle va devoir s'étalonner par rapport à des robots et au final de diminuer en même temps donc le pouvoir d'achat, diminuer le PIB et donc de creuser encore les inégalités. Et c'est ce qui peut poser le problème, c'est augmentation des inégalités, marginalisation supérieure, l'étape à suivre des pays pauvres et peut-être après avoir une instabilité politique et sociale.
C'est un scénario noir que vous nous proposez. Alors, est-ce qu'on peut croire, allez, soyons positifs, est-ce qu'il peut y avoir des sursauts, des réactions parce que finalement, les grandes idées informatiques sont nées, il faut se souvenir hein, de ce qu'a été le début de l'aventure, de l'épopée informatique. Ce sont quand même des idées qui sont nées dans des garages. Hein. Je pense notamment au premier pas de Microsoft et ensuite de Apple. Donc, on peut aussi partir avec des bouts de chandelle. C'est possible. Qu'est-ce que sont les mots, les conseils que vous pourriez adresser à ceux qui se disent mais voilà, il faut se ressaisir. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment aborder cette problématique si on n'est pas doté de milliards de dollars en caisse ? Comment faire ?
La première des choses, c'est accroître son talent. Alors, accroître son talent, c'est le talent de la population. Ça veut dire que notamment, eh bien, l'intelligence artificielle a besoin d'ingénieurs en informatique, de statisticiens, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et de même de pros. Et ce qui est important, c'est de développer tout de suite ce besoin de métier. Parce que c'est une évolution qui va se passer de plus en plus rapidement. Et donc, il convient de faire rapidement un sentier de croissance, parce que je ne pense pas que tout soit foutu d'une certaine manière. Hein. L'idée, c'est qu'il convient que grâce à la formation et à l'éducation, l'ensemble des pays puissent se former de plus en plus rapidement et puis proposer des avantages concurrentiels. Et par la suite, comme par hasard, la coopération internationale à moyen terme viendra faire des transferts de technologies. Je pense qu'au départ, il faut créer un terreau qui fait que les pays développés voient un intérêt à faire des transferts de technologies qui permettraient par la suite, après, d'accord, peut-être de faire des échanges internationaux, mais en même temps aussi à l'Afrique de pouvoir s'insérer dans le commerce international, on va dire, de l'intelligence artificielle et donc de jouer leur part. Et c'est ce qu'il faut, c'est aujourd'hui, parce que aujourd'hui, on n'a pas encore décidé vers quel axe va-t-on choisir, vers quelle intelligence artificielle, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance en Europe à vouloir réglementer l'intelligence artificielle, mais il faut voir aussi que, certes, il faut la réglementer, mais c'est aussi un énorme pouvoir de croissance économique, et donc, du coup, il faut s'insérer dans ce mouvement.
Nonobstant les difficultés, on revient sur le monde de l'entreprise, que des entreprises qui ne sont pas forcées. En plus, il y a le saut générationnel de gens qui peuvent aujourd'hui avoir 50, 60 ans, donc qui accèdent aux plus hautes fonctions dans l'entreprise, alors que quand ils ont commencé leur carrière, la souris, l'écran et le clavier n'existaient pas. Donc il faut aussi avoir des patrons qui soient à l'écoute, qui soient réceptifs, captifs par rapport à ces évolutions de marché qui, encore une fois, vont très vite. Donc il faut soi-même aller très, très vite. Et ensuite, il faut réussir à instiller ça dans les entreprises. Et souvent, ce qu'on dit beaucoup, c'est ce qui est le plus difficile, finalement, dans le monde de l'entreprise, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'il faut tous s'y mettre ensemble, l'employé comme le patron, et que c'est quand même, Michel Rumi, un défi organisationnel. C'est peut-être aussi une chance, hein, mais c'est quand même un défi organisationnel en termes de gestion des ressources humaines qui est absolument important.
Tout à fait, mais on a besoin de visionnaires. On a besoin de visionnaires parce que à ce jour, vu les scénarios qu'on élabore pour les années futures, où l'IA serait de plus en plus, on va dire, prépondérante, eh bien, l'idée qu'on avait de l'entreprise a changé, et c'est ce qui est très important de voir. Imaginez, je prends cet exemple au hasard, c'est que le début de l'aviation, c'était à la fin du 19e siècle, on commençait à faire voler l'avion, et à peu près en 69, donc admettons un peu plus de 80 ans plus tard, eh bien, l'homme marchait sur la Lune. Vous voyez, le saut, c'est important.
C'est gigantesque.
Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'évolution des technologies et le rythme est tellement rapide qu'il convient de plus de s'adapter que de rester, on va dire, dans des idées fortes. Par contre, avoir une vision, ça c'est très important.
Bien sûr.
C'est-à-dire construire un pays sur une vingtaine d'années, de faire des chemins qui sera parfois difficile à faire passer, mais c'est aussi de créer, en fait, ce chemin, cette vision, de dire aujourd'hui, c'est une chance qui nous est donnée, il faut la saisir pour pouvoir repartir et s'insérer un peu mieux dans le commerce international.
Mais ça reste vertigineux malgré tout, à l'échelle des individualités. Vous êtes boulanger, vous êtes cordonnier, vous êtes maçon, vous êtes électricien. On vous parle d'intelligence artificielle d'abord, c'est un petit peu abstrait. On ne voit pas trop comment ça va arriver dans nos vies. Et c'est vrai qu'il y a un effort colossal individuellement à faire sur nous-mêmes en se disant voilà, le monde qui est le nôtre va changer. Alors c'est toujours dans cette dualité, à la fois c'est extraordinaire et à la fois on a tendance à froncer les sourcils en se disant mais qu'est-ce qui va nous arriver.
Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est un effet générationnel. Quand on a introduit le portable au niveau de l'Afrique, il y avait, on va dire, les anciens qui avaient du mal avec le téléphone, etc., qui ont eu, on va dire, n'ont pas pu s'adapter. Je pense qu'il y aura toujours des laissés pour compte dans la population parce qu'ils n'ont pas toute cette capacité. Mais aujourd'hui, on construit la génération future. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui vont baigner dedans, que les parents vont avoir du mal, ça va aller, mais plus on sera ancien dans la population et plus on aura du mal à s'adapter. Mais le fait que si ces jeunes viennent et ont cette culture de l'innovation, culture du risque et en même temps d'être adapté et agile par rapport aux évolutions, fait que d'un seul coup, c'est toute la société qui change. Bien sûr, tout ne se fera pas en 5 ans.
Est-ce qui est très intéressant. Absolument. Excusez-moi.
Oui.
Ouais.
Excusez-moi. C'est une espèce de générationnel, à peu près 20-25 ans.
Mais je voudrais juste, pardonnez-moi de vous couper la parole, Michel Rumi, mais c'est un mot que j'aime beaucoup dans ce que vous dites. En fait, vous recentrez tout sur l'éducation. Finalement, c'est l'âme et le cœur et le point delta de votre propos, c'est de dire tout va se jouer au niveau de l'éducation.
Tout à fait, tout à fait. Et pour moi, l'éducation, c'est le terreau de la jeunesse de demain et qui permet que demain, ça va arriver. Et c'est là, avec l'éducation, où on apprend un minimum, on éduque, on apprend les éléments qui nous permettent. Et puis plus tard, plus l'on va développer un peu cette éducation dans l'enseignement supérieur, à développer le risque, à développer encore travailler dans l'incertitude, qui est qu'aujourd'hui, c'est le monde actuel.
Absolument. Éducation des jeunes et formation continue des anciens, formation continue des quadras, des quinquas, de telle façon à ce que l'entreprise reste totalement dans la dynamique qui est celle de l'IA. C'est aussi hyper important que cette logique de formation au sein même de l'entreprise, que ça existe pour ne pas être distancé.
Exactement, tout à fait, tout à fait. Et c'est ça qui est très important. C'est qu'aujourd'hui, comme je le dis, il ne convient pas d'être employé, mais être employable. Employé, c'est-à-dire que vous faites partie d'un travail et du jour au lendemain, si vous n'êtes pas capable de vous adapter avec votre environnement, vous êtes susceptible d'être envoyé, alors qu'employable, vous êtes toujours en compétition, entre guillemets, sur le marché du travail et vous pouvez trouver, on va dire, une évolution de carrière au sein de votre secteur.
Dernière question, Michel Rumi. Vous êtes d'une génération qui a vu l'ordinateur grandir. Vous-même, personnellement, quel est votre, à titre personnel, par rapport à vos activités professionnelles? Juste ce dernier mot, c'est intéressant, on vous a entendu, on aimerait savoir un ressenti peut-être plus personnel. Vous avez peur, vous avez confiance, vous êtes dubitatif, votre ressenti très personnel par rapport à l'intelligence artificielle?
Je pense, j'ai une attitude, on va dire, positive, toujours par rapport au progrès technique. Il ne faut pas aller à l'encontre. On a vu le chemin de fer, il y avait certains grands scientifiques qui avaient dit « oui, si le train dépasse 30 km à l'heure, on mourra asphyxié ». Donc, ce qu'il convient de voir, c'est qu'il ne faut pas avoir une attitude, on va dire, négative vis-à-vis de l'intelligence artificielle, mais plutôt s'accompagner. C'est de se dire, oui, c'est un progrès technique, en quoi ceci peut m'aider à faire mieux mon travail, c'est-à-dire de créer un peu plus de valeur ajoutée qui fait que moi, je deviens indispensable et non pas être remplaçable par une machine.
Merci, merci beaucoup Michel Rumi pour l'ensemble de ces éléments d'analyse. On revient au Maroc avec les récentes précipitations qui ont permis d'atteindre un taux de remplissage des barrages de 30%, ce qui reste une bonne nouvelle, même une nouvelle très importante, parce que c'est vrai qu'il fallait absolument que le ciel nous fasse part de sa générosité. Et il y a tout à fait matière à se réjouir de ces chiffres. Mais selon Gilles Béraud, qui est directeur en France de la Fondation des Transitions, il faut malgré tout réfléchir au modèle aujourd'hui de la répartition, de la gestion hydrique de cette précieuse ressource qui est tout à fait essentielle à la vie, mais aussi à l'économie de nos nations.
L'eau, c'est la vie, surtout dans un pays qui, du nord au sud, est quand même caractérisé aussi par la chaleur, par le désert. Et donc, heureusement qu'il a plu. Maintenant, soyons extrêmement prudents. Cela annonce une année très favorable. Mais c'est pas pour ça que tout va bien se passer dans les années qui viennent. Et effectivement, le ministère du ministre Nizar Baraka annonce depuis des mois qu'il va falloir changer les comportements, a mis en œuvre des réformes. Surtout, le risque serait pour tous qu'on considère qu'on va revenir aux mauvaises habitudes d'avant. Non, c'est une bonne nouvelle, il faut s'en réjouir. Maintenant, profitons de ce moment confortable pour installer dans le temps des comportements de sobriété à tous les niveaux sur l'eau. Profitons-en pour mettre en place une vision de long terme, puisque de toute façon, on sait qu'on sera confronté dans les prochaines années à une vraie difficulté de l'eau.
Voilà, merci beaucoup Gilles Béraud pour ces éléments de réflexion sur ce que devrait être la gestion de l'eau, à la fois au Maroc, au Maghreb, mais aussi dans l'espace euro-méditerranéen. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Economia. On aura le plaisir de se retrouver la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.